Bonjour, bienvenue, c'est l'atelier du gagne-pain. Je suis Bertrand Jonquois, cofondateur du gagne-pain, et avec ce nouveau rendez-vous, l'atelier du gagne-pain, nous allons prendre le temps de rencontrer régulièrement des professionnels du recrutement. Avec eux, nous découvrirons un autre regard sur les métiers du digital. Dans ces ateliers, nous vous proposerons les conseils de ces professionnels pour faire les bons choix dans votre projet et vous aider à trouver le gagne-pain qui vous convient. Bonjour et bienvenue, c'est l'atelier du gagne-pain. L'atelier du gagne-pain, c'est l'occasion d'interroger des professionnels pour vous aider à trouver un job dans le digital. Pour ce 11e atelier, nous avons le plaisir d'accueillir Samia Gozlan. Bonjour Samia.
Bonjour Bertrand.
Merci beaucoup Samia d'avoir accepté l'invitation du gagne-pain. Samia est la directrice générale de la Grande École du Numérique. Nous allons avoir l'occasion d'y revenir, d'expliquer ça dans le détail, de parler de son rôle et des missions de la GEN. Mais avant ça, Samia, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ?
Oui, avec plaisir. Donc, je suis Samia Gozlan, je suis bien la directrice générale de la Grande École du Numérique. J'occupe ces fonctions depuis la création de cette initiative fin 2016. Et ce qui a structuré mon parcours professionnel, ce sont deux éléments, mon intérêt et on va dire ma curiosité pour ce qu'on appelait Internet, maintenant on appelle digital, ou même on appelait NTIC il y a plus de 25 ans même. Et tout ce qui a trait à la formation, l'enseignement supérieur et le goût d'apprendre tout le long de sa vie.
Apprendre à apprendre, c'est un sujet qui revient toujours dans le podcast, donc j'entends ça dans ce que tu nous dis. L'atelier du gagne-pain a pour objectif de proposer des conseils pour trouver un job et construire sa carrière dans le digital. Si tu en es d'accord, Samia, j'aimerais organiser notre entretien sur 4 parties. C'est quoi la GEN ? Que tu nous expliques ce que c'est que la Grande École du Numérique. Comment est-ce qu'on peut trouver des formations grâce à la Grande École du Numérique ? La GEN propose aussi un observatoire de l'emploi, donc on pourra aussi donner des conseils, des avis qui permettent d'aiguiller ceux qui écoutent et qui cherchent un job. Et puis après, pour terminer, quels sont tes conseils et tes retours d'expérience ? On va commencer avec la première question, c'est quoi la GEN ?
Alors, la GEN, ou la Grande École du Numérique, contrairement à ce que son nom pourrait laisser croire, n'est pas une grande école. C'est un réseau de formation au métier du numérique, initialement. Et c'est surtout une initiative qui a été lancée durant l'année 2015 avec deux missions et ou deux ambitions. Une mission et deux ambitions. La mission, c'est vraiment permettre à des personnes de se former au métier numérique et de répondre aux besoins des compétences des entreprises qui étaient, rappelons, en 2015, en cours de digitalisation. On en parle encore maintenant en 2023, mais c'était vraiment tout le début.
C'était le début.
Et vraiment, l'ambition, c'est d'aller former des personnes qui ne se projettent pas forcément dans ce qu'on appelle aujourd'hui le digital, c'est-à-dire des personnes qui pourraient être en rupture de parcours scolaire, ce qu'on pourrait appeler les décrocheurs, des personnes qui pourraient être en recherche d'emploi, des personnes qui pourraient résider dans des quartiers, ce qu'on appelle prioritaires de la politique de la ville, qui sont des quartiers où vraiment la tech, le numérique est très loin de leurs préoccupations, et aussi les femmes. Il y a aussi un sujet cher à mon cœur, parce que tout simplement, dans le numérique et dans le digital, on a une sous-représentation des femmes.
Donc on est au cœur du sujet qu'on traite dans le podcast, c'est-à-dire accompagner les gens vers les métiers numériques, avec un objectif en plus fort, qui est d'aller chercher les gens qui sont un peu éloigné de ce sujet-là et d'essayer de les ramener vers ce sujet-là. Comment ça marche, la GEN ?
Alors, comment ça marche ? Dès le début, on a lancé un appel à labellisation et on a créé, en fait, un label qui s'appelle le label GEN. C'est le label des formations numériques inclusives. Derrière ce label, on a des critères d'éligibilité, des critères de sélection. Et parmi ces critères, il y a la nécessité, par exemple, de former un métier du numérique certifiant, qualifiant, qui permet une insertion professionnelle à la sortie dans le secteur du numérique.
Donc ça veut dire que vous n'êtes pas une école, mais vous labellisez des écoles ou vous labellisez des formations.
C'est comme ça que ça marche. On labellise
des formations.
Le label est porté au niveau de la formation. C'est la formation qui doit démontrer sa qualité, son approche pédagogique engageante, qui doit démontrer l'accompagnement social pour ne pas permettre le décrochage des apprenants, qui doit aussi les accompagner vers une insertion professionnelle avec des stages, avec éventuellement des projets professionnels avec les entreprises. C'est vraiment le label, il est au niveau de la formation. Et la formation doit, par exemple, faire en sorte qu'il y ait au minimum 10 personnes dans chaque session de formation de public cible de l'agence, c'est-à-dire ce que j'ai expliqué au début, des personnes peu qualifiées en recherche d'emploi, des femmes et des personnes résidant dans les QPV.
D'accord. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de formations pour lesquelles vous avez donné des labels, des gens qui sont un peu emblématiques de ce que vous faites ?
Ben, je pense que vous allez rencontrer Frédéric. Donc voilà, je vais citer Saint-Plan parce que ça fait partie des premiers. Je vais citer 42, l'école 42, par exemple. Je peux citer aussi des formations plus jeunes et plus émergentes ces dernières années, Connexio. Je peux citer la plateforme qui est sur Marseille, je peux citer le wagon, donc tout ce qu'on a, ces formations qui portaient le label des coding school, qui ont émergé voilà, pour certaines 2013, 2014, 2015 même de, voilà, et que c'est pour certaines qui ont été lancées grâce au label Gênes et grâce à la Grande École du Numérique, font partie de ce réseau de formation numérique inclusive et font en sorte de former ce public là que nous on veut absolument qu'il se projette dans un numérique, éthique, un numérique responsable, un numérique qui crée de la valeur et qui peut profiter à tout le monde, et aussi un numérique qui permet à des gens peut-être qui sont en reconversion, parce que c'est beaucoup de public aussi comme ça, qui maintenant avec cette digitalisation de toutes les activités, l'offre de services et les produits, l'offre de produits nouveaux, ont besoin de se reformer.
D'accord, c'est parfaitement clair. Il y a combien de formations comme ça qui sont labellisées ?
Alors aujourd'hui, on est autour de 300 formations.
300 formations partout sur le territoire ?
Partout en France, ouais. Même dans les territoires ultramarins. On en a à Saint-Denis, à La Réunion, on en a dans les Antilles, voilà.
Ok, on mettra un lien dans les commentaires du podcast pour que chacun de ceux qui nous écoutent peuvent retrouver une formation près de chez eux, parce que j'imagine il y en a partout, donc ça va être facile.
Il y a un moteur de recherche et on peut chercher par formation labellisée.
D'accord. On rajoutera ça dans les commentaires du podcast. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça marche justement ces formations ? Ceux qui arrivent dans ces formations, ceux qui souhaitent faire ces formations, comment ça marche pour eux ?
Alors, ce sont des personnes. Donc, chacune a un parcours qui lui est propre. Donc, c'est difficile de dire comment on arrive dans une formation labellisée. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un énorme travail des acteurs de l'insertion. Pôle emploi, qui peut aussi orienter vers une formation numérique, les missions locales, d'autres acteurs de l'orientation qui font leur travail pour aller identifier les personnes qui sont en recherche de formation pour le faire. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a fédéré ce réseau et qu'on communique énormément sur ce réseau au sein des réseaux sociaux, bien entendu, et au sein d'événements qu'on organise. Par exemple, des meet-up qu'on a fait récemment, ou alors ce qu'on appelle les Open Gen, c'est-à-dire les journées portes ouvertes en ligne et en présentiel, où les formations ouvrent leurs portes pour que chacun puisse aller se renseigner, rencontrer d'autres apprenants, discuter avec les formateurs, discuter avec les entreprises qui recrutent. Et c'est ça qui va donner l'attractivité et l'envie d'aller se former vers le numérique.
Une des questions qui se pose souvent, c'est le coût des formations. Comment ça fonctionne dans les formations que vous avez labellisées ?
Alors, c'est très clair. Pour les formations porteuses du label GEL, elles ont l'obligation de former sans reste à charge. Je n'utilise pas le mot gratuitement parce qu'il y a toujours quelqu'un qui paye.
Bah évidemment, ça coûte la formation.
Voilà.
Mais elle est prise en charge.
Sans reste à charge de au moins 10 personnes du public cible de la GEN. C'est-à-dire dans une session qui a 25 ou 30 personnes, il peut y avoir des personnes qui vont payer, des personnes dont c'est l'employeur qui va payer, des personnes, et les autres, il faut trouver une manière qu'elles se forment sans reste à charge. Ça peut être, bien entendu, les acteurs de la formation qui sont financeurs de la formation, les régions, Pôle emploi et autres. Mais en tout cas, pour nous, c'est très important. Quand on est une formation numérique inclusive portant le label GEL, on a l'obligation d'intégrer dans chaque session de formation, pendant les 3 ans de la convention de labellisation, un public qui se forme sans reste à charge.
D'accord, c'est clair. Donc ça veut dire que ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient faire ça, il faut qu'ils se renseignent sur comment financer leur formation. Il faut qu'ils posent des questions autour d'eux. Comment sont financées les formations s'ils veulent ne pas avoir de reste à charge ?
En fait, se former, c'est d'abord se mettre en état de marche, de trouver la formation qu'on veut et comment on va la financer. C'est d'abord se faire une opinion. Qu'est-ce que je veux ? pourquoi je veux me former, à quoi je veux me former, quels sont mes atouts déjà, quelles sont mes compétences. Et une fois qu'on a fait ça, Internet regorge d'informations. Et là, on va revenir là-dessus peut-être tout à l'heure. Nous, on a mis en place un portail d'orientation et d'information sur les formations numériques. Toutes les formations numériques en France, plus de 19 000, pas uniquement celles qu'on labellise, qui sont vraiment une minorité. Et il y a toute une palette d'outils et de conseils pour pouvoir mûrir sa réflexion, choisir quelle formation, quelle typologie de métier on a envie d'apprendre. Et après, effectivement, il y a toute une démarche. Il faut bien sûr contacter la formation, il faut aller rencontrer les formateurs, il faut aller rencontrer les anciens apprenants, il faut regarder les avis qui sont donnés. Et effectivement, il faut, si on est en recherche d'emploi, il y a son conseiller Pôle emploi, voir avec lui s'il est possible de prendre en charge. Si on est en entreprise et qu'on veut se reconvertir, voir aussi si ça peut être fait dans le cadre de la formation continue. Donc, il y a énormément de dispositifs pour le financement. Mais l'élément le plus important, c'est d'abord bien préparer cette orientation vers les métiers du numérique et une formation adéquate, ou cette reconversion vers les métiers du numérique avec la formation adéquate.
Il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué, peut-être qu'il faut qu'on dise un mot là-dessus, c'est les métiers en tension, parce que si la grande école du numérique s'est aussi intéressée à ces sujets-là, c'est parce qu'il y a beaucoup d'emplois sur les métiers du numérique. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce qu'il y a toujours autant de tensions sur les métiers du numérique?
Là, je vais revenir à un outil qu'on a mis en place, sur lequel on a travaillé depuis plus de 2 ans, qui maintenant marche bien, qui s'appelle GenScan. C'est à la fois un observatoire de l'offre de formation et des besoins de compétences des entreprises. C'est aussi une cartographie des métiers numériques. Et c'est aussi un indice de tension avec une mise à jour de ces données mensuelles et un rapport qui sort 2 fois par an. Donc, c'est vraiment énormément d'informations. Donc, là aussi, je fais comme vous, j'invite les gens à aller cliquer sur le commentaire pour pouvoir accéder au lien.
On mettra des liens vers le GenScan.
GenScan. Et donc, ce que met GenScan en perspective, c'est l'offre de formation. On est parti dans une logique data driving. On a remonté toute l'offre de formation en France qu'on a mis au miroir par rapport à une cartographie des métiers. On a 19 000 formations numériques qui sont recensées dans une carte de France. Et on a remonté les besoins de compétences des entreprises grâce à une start-up qui utilise un modèle de métadonnées avec plus de 50 job boards. Donc, il y a à peu près 80 000 offres d'emploi.
D'accord.
Et on les met en perspective dans une carte de France et on voit un petit peu les trous dans la raquette, c'est-à-dire là où il y a des offres de formation et des besoins, donc on est bon. Là où il y a des besoins, il n'y a pas d'offre de formation, ça veut dire qu'on n'est pas, bon. Et là, on a vraiment un top 5 des métiers, à la fois du développeur, de tout ce qui est réseau cybersécurité, de tout ce qui est data analyst, de tout ce qui est gestion de projet, tout ce qui est marketing et tout ce qui est design qui arrive, et web design et création qui arrive à la fin. Et c'est vrai que c'est très intéressant de le suivre tout le long, parce que c'est pas un outil recense des données. Toutes les mois, les données sont mises à jour.
D'accord.
Et on peut se rendre compte.
Donc, c'est un observatoire régulier qui permet de voir comment ça évolue.
L'observatoire, c'est un film, c'est pas une photo.
D'accord.
Voilà. En fait, c'est un film. Donc, le mot observatoire, c'est pour ça qu'on l'appelle GenScan, parce que l'observatoire, c'est un peu réducteur. Donc, c'est un film. Donc, tous les mois, on a les données qui sont mises à jour et on peut se rendre compte, à la fois en termes d'offres de formation et à la fois en termes de besoins de compétences. Et c'est vrai que sur certains métiers, on voit qu'il y a de la tension. Les métiers de cybersécurité, les métiers de la data analyse, ce qu'on appelle IA, mais l'IA, c'est de l'analyse, en fait. Ça, c'est sûr. Mais ce qu'on note aussi, c'est que les entreprises se sont un petit peu habituées à ces genres de tensions et qu'elles ont d'elles-mêmes trouvé les solutions avec la formation de leurs propres salariés.
D'accord.
Et ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que toutes les offres, tous les besoins de compétences des entreprises ne sont pas visibles parce qu'elles ne sont pas déclarées.
Ok. Ouais, il n'y a pas d'offre d'emploi parce qu'ils vont le faire en interne.
Deuxième chose, ils ont la plupart des entreprises qui recrutent ont des grands partenariats avec les grandes écoles, universités en France qui forment en tout cas les profils qu'elles recherchent. Et souvent, ces jeunes sont soit en stage, soit
en alternance,
en apprentissage. Ouais. Et donc, le recrutement se fait. Et donc, là aussi, l'offre n'apparaît pas. Donc, les besoins de compétences, effectivement, à apprendre avec beaucoup de précautions. Mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, les métiers en tension restent les métiers de la cybersécurité, la data, voilà.
D'accord. Donc, ça veut dire que, si on résume, il y a quand même encore beaucoup de jobs. Il faut quand même aller chercher, regarder ça un peu plus dans le détail. tous les métiers du numérique ne recrutent pas, mais il y en a quand même beaucoup qui recrutent.
Qui recrutent, okay. Voilà.
Merci Samia. J'aimerais qu'on prenne un peu de recul pour regarder un peu quels sont tes conseils pour ceux qui nous écoutent, à la fois pour trouver un job et pour trouver une formation. Avec toute l'expérience que tu as sur ces sujets, c'est quoi les principaux conseils ?
Alors, trouver un job dans le numérique, normalement, si on a une formation dans le numérique, on doit savoir à peu près comment fonctionnent les job boards et comment rechercher une offre d'emploi parmi les job boards. Après, si on est un jeune qui vient de finir une formation, la plupart du temps, c'est vraiment l'école et le réseau et les alumni qui va aider. Bon, après, ça, c'est des écoles classiques. Si on est sur des formations un peu type formation numérique inclusive de la Gênes, on a normalement là aussi quand même le réseau des formations, les entreprises qui sont partenaires qui peuvent aider. Et surtout, on a eu un stage qui est obligatoire, qui est environ de 2 à 3 mois, et qui va permettre de mettre le pied à l'étrier dans une entreprise avant de pouvoir se lancer dans cette recherche active.
Ce que j'entends dans ta voix là, c'est que globalement, le premier conseil que tu donnes, qui est un peu le conseil que donnent tous les professionnels du recrutement notamment, c'est le réseau, c'est-à-dire travailler son réseau, développer son réseau. Est-ce qu'il y a là-dessus, il y a des conseils que tu peux donner en plus sur comment je travaille mon réseau, qu'est-ce que je fais sur mon réseau ?
Alors, quand on dit travailler son réseau, effectivement, on pense à LinkedIn parce que c'est le réseau professionnel le plus important. Moi, je reçois beaucoup de demandes, par exemple, de mise en relation, et je suis toujours surprise que les gens ne fassent pas l'effort d'écrire un petit mot alors qu'ils ne me connaissent pas.
Très bonne remarque.
Alors, voilà, moi, je comprends tout à fait l'intérêt. Je suis prête à accepter des jeunes diplômés dans mon réseau, à même à mettre, s'ils me demandent quelque chose de précis qui est de l'ordre du possible de le faire, mais recevoir comme ça une invitation alors que je ne les connais pas, et voilà...
Donc tu dis globalement utiliser LinkedIn, c'est bien, mais savoir utiliser LinkedIn avec un minimum de, disons, courtoisie,
oui.
Hein, c'est mieux.
C'est mieux. Après, il y a toutes les pages professionnelles, les groupes. Là aussi, c'est intéressant. Et pareil, moi, je gère certains groupes et je trouve intéressant qu'on me dise pourquoi vous voulez rentrer dans le groupe. Et une fois que vous y êtes, j'aimerais bien quand même que vous, de temps en temps, vous commentez,
vous likez.
Voilà, je fais partie du groupe Women in Technology. Je ne publie jamais rien, je ne dis jamais rien. Et je veux, voilà, ça sert à quoi ça? Donc, le réseau, c'est de l'interaction. L'interaction, ça veut dire que j'écoute ce que dit l'autre et je réagis à ce que dit l'autre.
Donc, là aussi, ça rejoint un peu ce qu'on a déjà évoqué dans d'autres interviews sur le même sujet. Être présent sur LinkedIn, avoir le minimum de courtoisie, de faire un petit mot sur LinkedIn et puis après, publier, participer,
voilà.
Être actif.
Voilà, relayer, participer, être actif. On fait tous de la veille. Il y a tous des choses, il y a souvent des choses qui nous intéressent. Un petit post de 2 lignes pour relayer un article qu'on a lu, pour dire ce qu'on en pense, pour taguer des personnes, pour dire tiens, ça m'a fait penser à toi en lisant ça. Tout ça entretient les liens et fait en sorte que on remonte d'ailleurs et on peut peut-être à ce moment-là avoir des opportunités professionnelles qui vous arrivent alors que vous ne pensiez même pas que vous étiez que cette entreprise ou pouvait être intéressée par votre profil. Et je trouve aussi qu'il est important, c'est que quand on est dans le numérique, on a souvent fait des projets. Et je trouve que le portfolio est un outil intéressant aussi. Je ne sais pas, ça peut paraître un peu vieillot peut-être.
Le fameux book.
Oui, le fameux book. Mais je trouve que si on a fait des beaux projets et qu'ils sont en ligne, il faut les valoriser.
Oui, voilà. Ça aussi c'est intéressant. Ça a l'air, disons, étoffer son profil en montrant ce qu'on a déjà fait, voilà. En expliquant ce qu'on a déjà fait. LinkedIn le permet, en plus on peut mettre de la vidéo, on peut mettre un peu tout, quoi.
Des e-portfolios, des badges, des certifications professionnelles en plus. Tous ces éléments-là vont vous permettre d'être distingué.
Excellent. Pour conclure cet entretien, j'avais envie de te poser des questions sur quelles seraient tes envies de communication par rapport à ceux qui nous écoutent. Je sais que tu avais des sujets qui te tenaient à cœur et sur lesquels tu avais envie d'échanger avec nos auditeurs.
Alors, chaque fois que je prends la parole, j'essaie toujours de glisser quelque chose autour des femmes et du numérique ou des femmes ou digital parce que c'est un sujet qui est cher à mon cœur. Déjà, avec la Grande École du Numérique, on a un objectif parmi notre réseau de former 30% de femmes. En 2022, parce qu'on a les chiffres consolidés de fin 2022, on était à 27%. Ça fait quand même plus de 6 ans qu'on travaille et on n'a pas atteint les 30%. Donc, le secteur numérique est un secteur porteur d'opportunités professionnelles et je trouve dommage que les femmes se privent de ces opportunités professionnelles et qu'elles restent minoritaires. alors qu'elles ont, je ne vois pas pourquoi elles n'auraient pas l'envie et pourquoi elles n'auraient pas les, ni les, les compétences, parce que les compétences, ça s'acquiert, et, que, et qu'elles ne puissent pas elles aussi profiter. Donc moi, je, ce que je voudrais, c'est lancer un appel à toutes les jeunes filles, et les jeunes femmes, et les, même les plus âgées, puisqu'il y a de la reconversion, à vraiment regarder ce secteur, regarder les formations qui sont proposer et puis se poser les questions. Peut-être qu'il y a quelque chose pour moi dans ce secteur et que je pourrais à contribuer, apporter ma petite pierre à l'édifice. On, tout le monde parle de l'IA. Si l'IA est faite par des hommes, voilà, 90% des, voilà, c'est qu'on aura un monde qui est complètement biaisé et c'est pas possible. C'est pas possible. Donc les femmes ont un rôle à jouer dans le numérique. Pour qu'elles puissent jouer ce rôle, il faut qu'elles se forment et qu'elles travaillent dans ce secteur. Parce qu'on sait aussi que celles qui sont formées ne restent pas dans le secteur.
J'ai une toute dernière petite question. Si ceux, je l'espère, qui nous écoutent ont été intéressés par ce que tu nous as dit aujourd'hui sur la Grande École du Numérique et ton engagement là-dessus, souhaitent te contacter, comment ils peuvent faire ?
Ben LinkedIn.
D'accord.
Un
donc
petit
si
mot.
Je comprends un petit mot.
Avec un petit mot.
Samia, merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Si vous aimez le Gagne-Pain, laissez-nous 5 petites étoiles sur Apple Podcasts ou votre application de podcast ou de streaming préférée. N'oubliez pas de vous abonner au Gagne-Pain. Vous pouvez nous écrire, nous envoyer vos suggestions et vos commentaires sur legagnepain.fr. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. À bientôt pour un nouvel épisode du Gagne-Pain.